Bonjour Philippe Vassé, nous parlons de La Légende qui vient de paraître aux éditions Fayard pour cette rentrée littéraire 2016. Est-ce que La Légende forme un cycle avec La Conjuration, ton précédent livre? Il m'a semblé à la lecture que ils allaient ensemble.
Oui, mais c'était pas forcément un projet. C'est-à-dire, je me suis pas dit que j'allais écrire une suite de La Conjuration, mais de fait, l'histoire du livre est très profondément ancrée dans La Conjuration. En fait, j'ai eu l'idée enfin, c'est des personnages de La Conjuration qui m'ont donné l'idée de ce livre. Dans la Conjuration, il y a un chapitre qui décrit un supermarché casino en ruine, enfin à l'abandon, qui a été intégralement tagué par deux graffeurs. Et je le décris parce que c'est comme ça que je l'ai visité, en fait, comme si c'était une cathédrale, en fait. Quand le livre est paru, ces deux graffeurs qui s'appellent Lek et Sowat ont lu le livre, étaient assez troublé d'être dedans à leur insu. On s'est rencontrés, on a fait pas mal de choses ensemble et ils ont monté au printemps 2016, au printemps 2015, pardon, une exposition au Palais de Tokyo qui était une espèce de rétrospective du graffiti français. Et donc j'ai pas mal parti, enfin j'ai pas mal visité cette exposition pendant qu'elle était en train de se faire avec eux, etc. Et à un moment, ils m'ont fait visiter une salle qui venait d'être peinte par un graffeur. Et en fait, souvent, quand ils me montraient des réalisations de tous les graffeurs qu'ils avaient invités, ils me racontaient leur histoire, en fait. Et là, dans cette salle, alors d'abord graphiquement, je trouvais ça incroyable, et ils m'ont raconté l'histoire en fait du type qui l'avait fait. Et je les écoutais, et je sortais tout juste de La Conjuration en fait, et je les écoutais, et au bout d'un moment, j'aurais dit, mais en fait, ce type est un martyr. Et ils m'ont regardé en me disant, de quoi tu parles? Et tout le projet vient de là en fait. Tout le projet est né à ce moment-là où l'idée de raconter des vies de gens qui vont au bout d'eux-mêmes, de leur vocation, sans forcément être capable de dire quelle est la nature de cette vocation, mais qui sont écrasés par un élan qui les dépasse, elle est née à ce moment-là. Donc en fait, c'est des personnages de La Conjuration qui ont allumé la première étincelle de la légende.
Le narrateur dans la légende, peux-tu le présenter?
C'est un ecclésiastique qui est un fonctionnaire du plus grand studio de production de fiction du monde, à côté duquel Hollywood est une PME familiale. C'est un fonctionnaire d'une branche du Vatican qui s'appelle la Congrégation pour la cause des saints. Et le travail de la Congrégation pour la cause des saints, c'est de faire des saints, en fait. C'est l'usine qui fabrique des saints. Donc, en fait, ils montent des dossiers de canonisation et ils construisent, en fait, la légende d'un saint. Donc, c'est un hagiographe professionnel, en fait.
Mais il va dévier.
En fait, c'est un personnage qui. Les hagiographes professionnels, en fait, la géographie, enfin, c'est ce qui m'intéressait, c'est que c'est à la fois un processus juridique, mais c'est aussi un genre littéraire, même si c'est un genre littéraire totalement désuet aujourd'hui. Les hagiographes, en fait, ne travaillent en règle générale que sur des morts et sur des gens qui sont morts depuis très longtemps. Et en fait, c'est un personnage qui est totalement hanté par les fictions qu'il construit, qui croit vraiment et qui, au bout d'un moment, souffre de ne pas travailler sur des légendes contemporaines, des gens qui l'entourent, de ne pas être, en fait, lui-même pris dans ce mécanisme de vocation, de construction de fiction et de construction de légende, et qui à un moment va rencontrer quelqu'un qui va accompagner comme s'il accompagnait une sainte.
Et là, le récit de ce personnage et de cette femme qu'il va rencontrer, qui va le faire basculer, est entrecoupé de vie. La vie d'Otto, la vie de Gênes, la vie d'Urbain, la vie de Der, la vie de Pi, qui sont des récits de vie, de possibilités de saints. On peut lire la légende aussi comme la manière dont on peut fabriquer des légendes actuelles de personnages vivants, et les dizaines de vies de saints sont dans le corps du texte.
En fait, c'est un livre qui est construit en champ contre champ, c'est-à-dire que d'un côté, on a l'histoire de la géographe et de ses affres, de sa dérive, de sa rencontre qui va le faire basculer, etc. Et de l'autre côté, on a son travail d'agiographe, en fait. Et donc, on a en effet des vies. Alors, c'est des vies de personnages contemporains qui sont absolument pas canoniques, qui sont pas du tout, qui sont non seulement pas catholiques, mais qui sont même pas religieux, qui sont des personnages réels, mais qui sont racontés comme si c'était des saints. Donc, la géographie, c'est d'abord un genre littéraire, avant d'être un processus juridique. Les premiers saints, en fait, sont canonisés sur la base d'un récit. Saint François d'Assise, il est canonisé parce que Thomas de Celano écrit un livre qui raconte sa vie, et les preuves sur lesquelles se base la canonisation, c'est ce livre, en fait. Et donc, la géographie est un genre assez codé, et toutes ces vies de personnages réels sont racontées exactement comme si c'était des saints, en respectant scrupuleusement tous les codes de la géographie. Donc, c'était à la fois un projet d'écriture, mais aussi un projet de lecture, parce que pour écrire toutes ces vies, évidemment, j'ai lu des centaines d'agiographies, des centaines de vies de saints, depuis la légende dorée jusqu'à Sainte-Lidvine de Huysmans.
Alors, prenons un exemple concret, la vie de Dari, recluse. Qui est Dari, et surtout, comment as-tu été informé de sa vie, puisque le principe, c'est que les vies de possibles saints que tu racontes sont des vraies vies existantes?
Alors, en fait, la caractéristique principale de la géographie, c'est que tout est traité sur le même plan. C'est-à-dire que ça se présente comme un récit historique, mais en fait, la géographe met exactement sur le même plan les racontars, les documents historiques, les témoignages de première main, de deuxième main, de troisième main. Donc moi, j'ai procédé exactement de la même manière. J'ai rencontré aucune des personnes dont je raconte les vies, parce qu'on ne peut pas rencontrer un saint. Et je me suis basé sur des histoires qu'on a pu me raconter, sur des pièces judiciaires, sur des documents administratifs, mais aussi des fois sur vraiment des micro-détails dans un article de journal, etc. Donc c'est un petit peu l'inverse de ce que j'ai pu faire dans d'autres livres où j'enquêtais vraiment de manière très scrupuleuse. Là, au contraire, j'ai fait en sorte de tout accepter et de tout prendre, parce que c'est la manière dont travaille la géographe. Et je voulais vraiment travailler comme un agiographe et raconter du contemporain avec une méthode millénaire, en fait.
Et alors, pour Dari, ça donne une femme qui, à un moment donné, se retrouve au bord d'une autoroute, où notamment des personnes viennent lui donner à manger, viennent la voir, même si elle est cachée, parce qu'ils imaginent qu'elle inspire protection routière.
Alors, en fait, c'est une vie qui est basée sur la première fois, on m'a raconté cette histoire, en fait. Quelqu'un qui habitait dans une ville qui est sur une autoroute, sur l'A6, m'a raconté cette histoire-là. Lui, évidemment, l'avait pas expérimenté lui-même, mais on lui avait raconté. Et ensuite, en recherchant, j'ai trouvé des traces d'une histoire un peu similaire, mais dans d'autres villes, dans des articles de journaux régionaux, en fait, dans un quotidien régional. J'ai trouvé deux articles qui racontaient une histoire qui était un peu semblable. Et donc, je suis allé dans ces villes. J'ai essayé de trouver des gens j'en ai trouvé quelques-uns d'ailleurs, mais à chaque fois, enfin, quand on se base comme ça sur des histoires orales, dans des milieux où il y a très peu d'écrits, les versions des histoires varient considérablement, etc. Donc par exemple pour l'histoire de Dari, j'ai très 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 peu de pièces. Il y a d'autres vies qui sont beaucoup plus documentées, mais l'histoire de Dari, elle tient sur une tête d'épingle, en fait.
Au fond, tu fais tien un des préceptes de Joseph-Antoine Boulan dont tu parles dans ton livre. La sainteté n'est pas un exemple, mais un scandale, une folie que rien ne justifiait et qui, hors d'atteinte du jugement humain, ne pouvait s'approcher que par la fiction. Pour Dari, peut-être pas, mais il y a la vie de Pi, par exemple, qui est un authentique pêcheur, qui est quelqu'un vraiment qui déborde de sexualité. Nous avons plein d'autres, tu as plein d'autres exemples de vie où effectivement, on est dans quelque chose d'un peu plus extrême, qui ne sont pas à proprement parler des saints tels qu'on pourrait l'imaginer.
Alors en fait, ça va plus loin que ça, c'est-à-dire que il y a un double mouvement dans la sainteté, c'est-à-dire qu'en règle générale, le saint, y compris les saints les plus canoniques, est toujours scandaleux, en fait. D'une certaine manière, c'est pour ça qu'il y a une administration qui ne s'occupe que d'eux. Parce que, au départ, la définition du saint, c'est justement qu'il excède le dogme, qu'il agit de manière scandaleuse, qu'il bouscule les certitudes, etc. L'histoire de saint François d'Assise est assez exemplaire de ce point de vue-là. Il commence par se mettre nu dans une église, répudier son père, vivre sans rien comme un clochard, alors qu'à l'époque, les moines sont des notables. Enfin, voilà, la sainteté est toujours scandaleuse. Moi, c'est ça qui m'intéressait, en fait. Ce qui est assez troublant, et ce qui finalement explique le déséquilibre du narrateur, c'est que le but de l'administration qui s'occupe des saints au Vatican, c'est précisément de les émasculer, en fait. C'est-à-dire de faire de personnages scandaleux, hors normes, des images pieuses. Donc souvent, il s'agit de démonter la légende, de la repasser, de la vernir, de couper des détails qui sont par trop scandaleux. Mais si on regarde l'itinéraire de la très grande majorité des saints, c'est des histoires pas possibles. Il suffit d'ouvrir la légende dorée, qui est pourtant vraiment un livre canonique. La moitié des histoires sont des histoires de transformisme, d'inceste, de meurtre, enfin de sadisme absolument abominable, d'homosexualité. Donc c'est la sainteté, c'est ça, en fait. La sainteté, c'est quelque chose de très extrême. Aujourd'hui, on a cette image très compassée de saint immuable, mièvre, etc. Mais à l'origine, c'est pas le cas du tout. Même les saintes les plus mièvres qu'on puisse imaginer, Sainte Thérèse de Lisieux, par exemple, l'histoire de Sainte Thérèse de Lisieux, à l'origine, c'est une histoire complètement démente. C'est l'histoire d'une jeune adolescente qui se met à fantasmer sur la Vierge du fond de son couvent alors qu'elle est mourante et qui est encouragée dans cet exhibitionnisme religieux par ses deux sœurs, qui sont les deux responsables du couvent dans lequel elle est en train de mourir. C'est une espèce de boys band, en fait, de girls band, en fait.
Fabriquer des saints, c'est aussi fabriquer des vies exemplaires, peut-être en les lissant. En tout cas, c'est notre époque aussi qui veut ça. Ça, c'est très utile pour la fiction. Pour quelqu'un qui fait usage de fiction, on est dans le cœur de du problème de la fiction, c'est de fabriquer aussi des vies qui puissent être exemplaires, que l'on puisse prendre pour modèle ou en tout cas qui nous fascine.
Mais en fait, c'est le travail de mon narrateur. En fait, mon narrateur, son travail, c'est de transformer quelque chose d'extrême et d'informe en justement des vies qui vont inspirer les fidèles. Donc c'est effectivement un travail de fiction, c'est même un travail de propagande. La Congrégation pour la cause des saints est un instrument de propagande et conçu comme tel. C'est un studio hollywoodien en temps de guerre. Maintenant, ce qui est très troublant, je pense, pour la géographe, c'est qu'il est dans une situation totalement schizophrénique, c'est-à-dire que d'un côté, il doit justement recadrer en fait des vies qui partent dans tous les sens, et d'un autre côté, il est celui qui est au plus proche, qui est capable d'approcher la singularité extrême de ses vocations. D'une certaine manière, l'essence de son travail, c'est de trahir et d'être pleinement conscient de cette trahison.
Oui, mais toi, en tant qu'écrivain, il y a aussi ton jeu à toi, puisque c'est toi qui écris cela. Il y a ton propre jeu avec la fiction, il y a ton propre jeu avec ton questionnement d'utilisateur de la fiction. Puisque c'est ton huitième livre, La Légende, on voit bien qu'il y a une même problématique pour ces huit livres qui te taraudent. J'ai l'impression que tu cherches à répondre à cette question, c'est comment faire autrement de l'action dans notre société. Donc, tu cherches à créer des fictions qui soient des aventures modernes, comment nos vies peuvent être transformées en faisant des actions qui soient inédites dans nos sociétés. Et alors là, c'est très pratique de raconter des vies de personnes qui pourraient être saints.
C'est une question super compliquée. Ce qui est intéressant, alors là où tu as raison, c'est que ce qui m'intéressait dans la géographie, c'est que c'est des fictions opérantes, c'est-à-dire que c'est des fictions qui produisent de l'exemple et produisent aussi de la dévotion, continue l'élan qu'elles contiennent. Donc ça, évidemment, c'était quelque chose qui m'intéressait. Maintenant, je ne voulais pas qu'il n'y ait que ça dans le livre. Je voulais qu'il y ait un contre-champ sur justement la fabrication de cette légende. C'est pour ça qu'il n'y a pas que des vies dans le livre. Il y a aussi toute la manière dont elles se construisent. Et d'une certaine manière, ce que veut le cœur du livre, c'est que la légende qui est vraiment opérante, c'est la légende qui échappe, y compris à celui qui la perpétue. Et le narrateur est en boucle là-dessus, en fait. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est les légendes ouvertes, en fait. C'est les légendes dont on ne comprend pas forcément les ressorts, qui restent ramassées sur leur mystère. Il y a une tension entre l'exemplarité et la puissance de la vocation. Je ne suis pas très clair, mais c'est vraiment ça qui m'intéressait, en fait. C'est-à-dire, parce qu'il y a beaucoup de choses dans l'exemplarité. Il y a le désir d'imitation, mais il y a aussi la sidération devant le caractère extrême des actions qui sont faites par les saints, et la géographie aussi, toujours entre ces deux pôles, en fait.
Parce que ce n'est pas pour rien que tu as entendu parler de ces vies-là, de ces vies extraordinaires. C'est pas pour rien que tu les as reçues. C'est parce que tu es sensible, c'est parce que tu recherches continuellement aussi pour faire usage de fiction, d'être attentif au bruissement un peu interlope dans nos sociétés occidentales, ou au moins dans notre société française. Tu y es attentif parce que ça fait partie de ton projet. Donc ce n'est pas, tu as bien entendu enquêté pour raconter ces vies-là, ces vies d'Otto, de Gêne, de Dari, ces vies de Pi. Tu as enquêté aussi sur place, tu as prospecté, mais néanmoins, elles te sont aussi parvenues à tes oreilles parce que tu as voulu y être sensible, et tu as voulu être sensible parce que ton projet d'écrivain, ton projet de fabrication de la fiction, c'est aussi quelque part être à la recherche de comment mener des vies autrement dans notre société.
Disons qu'il y a, plusieurs étages, c'est-à-dire que le premier degré, moi j'écris pas des livres pour raconter ce qui m'est arrivé, j'écris des livres pour qu'il m'arrive quelque chose. Donc en fait, les livres sont toujours des espaces ouverts à l'accident et je me lance dans... Enfin, mes livres sont aussi des projets de vie, tout simplement. Donc, la question que tu poses, elle s'applique aussi, elle s'applique d'abord en fait à l'écrivain. Ensuite, pourquoi est-ce que j'ai été touché par ces vies-là et pourquoi est-ce que je les raconte? C'est parce que fondamentalement, je pense que c'est le cas dans tous mes livres, c'est que j'ai un sentiment très paradoxal dans la société contemporaine, c'est-à-dire qu'on est dans une société qui est totalement irrigué par l'écrit, la fiction, etc. La fiction est partout, mais d'une certaine manière, il y a des histoires très contemporaines, des choses qu'on côtoie tous les jours, qui, elles, sont totalement hors d'atteinte du texte, de la littérature, de la fiction, qui sont souvent des vies marginales, des espaces qu'on ne voit pas forcément, etc. Et il y a énormément de mes livres qui sont motivés par l'idée que les choses les plus contemporaines et les plus inédites se passent hors d'atteinte de la fiction, du storytelling, de toutes ces choses-là, et qu'en fait il faut juste aller les chercher dans des endroits pas toujours hospitaliers ou pas toujours répertoriés, mais que c'est là en fait que quelque part se sécrètent les événements les plus... Je sais pas comment les qualifier, peut-être parce que c'est pour ça que j'écris des livres dessus pour essayer d'en dire un peu plus, mais c'est là qu'il se passe quelque chose d'essentiel et qui n'est jamais raconté, en fait.
Et ça, c'est l'usage que tu fais de la littérature, c'est l'usage que tu fais aussi de la fiction en l'écrivant, parce qu'on est... parfois même éloigné de ce qu'est, le roman. Le roman, finalement, te concerne assez peu. C'est tellement documenté. Tu n'as pas un projet romanesque. Mais néanmoins, c'est un projet d'usage de la fiction. Tu viens de dire que pour toi, écrire un livre, c'est un projet de vie, mais pas un projet de vie seulement parce que tu vas être à ta table à écrire le livre. C'est parce que tu vas vivre des aventures pour pouvoir écrire le livre. C'est un appel à vivre des aventures. C'est-à-dire qu'écrire un livre qu'on peut catégoriser de fiction est un appel pour toi à vivre des aventures. Et ça, c'est un usage de la fiction qui t'appartient, qui appartient à quasiment aucun écrivain actuellement.
Je ne me suis pas forcément posé le problème en ces termes, mais c'est vrai que pour moi, écrire un livre juste pour écrire un livre, ça n'a pas d'intérêt, en fait. J'écris un livre pour vivre des choses, pour ouvrir un espace, pour m'ouvrir à moi-même un espace, pour me pousser hors de mes limites, pour m'obliger à faire des choses que j'aurais pas fait normalement, pour rencontrer des gens. Enfin, pour ce livre-là, j'ai passé quasiment un an à traîner au Vatican, à rencontrer des ecclésiastiques, des clercs, des fonctionnaires du Vatican, et donc un univers pas commun, moi qui m'intéresse, ça m'intéressait de le raconter d'un certain point de vue, mais par exemple, je sais que pour moi, le livre, c'est toujours d'abord ça. C'est toujours un projet qui va me permettre de faire des choses, de rencontrer des gens. Et j'ai eu plein de projets qui n'ont pas abouti à des livres, par exemple. C'est pas parce que j'ai un projet que j'ai un livre. Le livre va dépendre de ce qui m'arrive, de la qualité de ce que je peux voir, de ce que je peux attraper, de ce que je peux vivre, de ce que je peux éprouver. Mais c'est vraiment ça, l'idée, c'est pour moi, un livre se fait pas à sa table, quoi. Ça se fait en pataugeant, en essayant, en tapant des portes, en se prenant des vents, en, en, en se plantant complètement, etc. Mais c'est ça qui m'intéresse, en fait. Le livre est plutôt c'est vraiment un appel d'air, en fait. C'est quelque chose qui va m'emmener ailleurs. C'est un tapis volant, voilà.
Merci beaucoup, Philippe Vasset.